Dans la mêlée, en tant que Gwyn, j'ai longtemps navigué dans les communautés queer et féministes et j'ai été témoin de nombreux processus d'exclusion et d'acharnement collectif sur les protagonistes d'un conflit politique, sur des personnes victimes comme autrices de violences ou sur leur entourage. Je ne compte plus les témoignages écrits par des personnes exclues de leur milieu après des années de lutte, ni ceux rédigés par les proches après des suicides de personnes militantes. Je ne me pencherai pas ici sur la responsabilité de la société contemporaine et de sa violence dans ces décès, qui ne doivent évidemment pas être minimisés. Toutefois, la violence des espaces dans lesquels nous luttons doit aussi être reconnue, bien qu'elle soit en grande partie issue de la reproduction des rapports de pouvoir structurels. La manière particulière dont elles se déroulent au sein des milieux militants mérite de faire l'objet d'une analyse complète. Si ces milieux sont pour moi certaines sphères féministes et queer, des parallèles peuvent être faits avec tous les espaces de la gauche. Une visée d'abolitionnisme pénal, par souci de se passer de la police et des tribunaux, des groupes cherchent à s'y substituer et parviennent régulièrement à se constituer en tribunaux populaires, en réaction soit à un simple désaccord ou conflit politique, soit à une agression, un abus ou un fait de violence. Mon expérience propre et mes apprentissages militants m'ont moi aussi amené à la conclusion qu'il est nécessaire d'apprendre à se passer du système judiciaire qui, dans sa forme actuelle, est punitif plutôt que transformatif, reproduit les rapports de domination et ne répond pas assez aux besoins des victimes. Mais si l'attention est louable, mon application concrète l'est moins, bien souvent par manque de temps et d'énergie à dédier à la recherche et à la mise en place d'outils appropriés. Les mesures sont expéditives et appliquées dans l'urgence pour répondre au rythme effréné d'un militantisme porté à bout de bras. Étant donné que la gestion de conflits ou de violences vient s'ajouter aux agendas militants déjà bien chargés, il est souvent difficile de trouver des groupes pour s'en occuper de manière stable et suivie. Cette gestion finit donc par reposer sur une petite poignée de personnes dont les intérêts et les enjeux individuels sont rarement questionnés, souvent par manque de pairs pour le faire. Les milieux militants étant influencés par le système pénal et carcéral, comme le reste de la société, les outils employés pour faire justice sont profondément empreints d'une philosophie punitive. La menace, la pression, l'exclusion, le harcèlement, la dénonciation publique, la manipulation des faits et des discours ou la discréditation politique. La justice punitive repose sur la croyance selon laquelle sanctionner l'auteur d'une infraction est juste et nécessaire. Cette sanction peut être appliquée dans un cadre pénal ou judiciaire, mais aussi en dehors de toute institution juridique. Par exemple, une campagne de harcèlement peut constituer une mesure punitive à l'encontre d'une personne tout comme le boycott d'un lieu ou encore la dénonciation d'une personne pour ses agissements. Ces pratiques, répandues dans le monde militant au sens large, sont peu remises en question et l'imposition d'une souffrance physique, morale, psychologique à la suite d'un préjudice commis est monnaie courante. Dans une conférence de 1976, Foucault explique que si les positions anticarcérales sont de plus en plus populaires, ce n'est pas parce que la prison fait faillite. Au contraire, c'est parce que ces fonctions de contrôle et de punition ont réussi à s'exfiltrer hors de ces murs, dans la société, la famille, le travail. Les groupes auxquels appartiennent les individus ayant commis des infractions ou des crimes se voient déléguer les fonctions étatiques de contrôle. Par exemple, l'usage de bracelets électroniques se répand dans les années 2000 et transforme l'espace privé du foyer en lieu de restriction ou purger sa sentence. Le même mécanisme d'enfermement en extérieur se retrouve quand une personne est exclue par ses pairs de tous les lieux de sa communauté d'appartenance. Si nous ne prenons pas de recul sur nos pratiques en matière de justice, le risque de rejouer les mécanismes du système pénal au sein de nos espaces est considérable. Comme les militantes pour la justice sociale et pour l'abolitionnisme pénal en sont-elles venues à ne pas faire mieux, parfois même pire que la police en matière de violence au sein de leur espace de lutte. Et que peut-on mettre en place pour sortir de cette impasse ? Si j'ai fini par me saisir des théories et pratiques liés à la justice transformatrice et ou abolitionniste, ce n'est pas du tout par là que j'ai commencé. C'est en constatant que les communautés auxquelles j'appartenais ne savaient pas réagir aux conflits et faits de violences internes que j'ai tenté de rassembler les outils existants sur le sujet afin d'aider les personnes autour de moi. En 2019, j'ai réuni un groupe que je savais intéressé par les sujets des violences intracommunautaires. Nous avons créé un questionnaire pour en apprendre davantage sur l'étendue des pratiques punitives au sein de nos espaces. Puis nous nous sommes structurés au sein d'un collectif, le collectif FRACA. Chacune d'entre nous avait une expérience intime des conflits et violences intracommunautaires dans les milieux queer, lesbiens, trans et féministes. C'est dans ce cadre que j'ai entamé un travail de recherche et de formation, et que nous avons pu appliquer les pratiques qui nous semblaient pertinentes, lors des accompagnements effectués par notre collectif. Nous nous sommes inspirés des protocoles de soins et d'accompagnement existants pour les adapter au domaine du conflit dans les milieux militants. Cela nous a permis de mettre en place une structure horizontale où chacune peut prendre en charge des suivis, tout en rendant régulièrement des comptes au collectif afin d'éviter tout débordement ou abus de pouvoir. Les suivis que nous proposons sont chaque fois adaptés à la situation qu'on nous rapporte, mais ils se déroulent toujours selon un scénario similaire. Quand une personne ou un collectif nous écrit, nous convenons d'un premier rendez-vous téléphonique. Durant cet appel, nous revenons sur les raisons qui ont amené nos interlocuteurs, interlocutrices à nous contacter et nous analysons ensemble leur situation, leurs besoins et leurs envies. Ce temps sert aussi à évaluer si notre collectif est en capacité d'intervenir, si les personnes peuvent répondre elles-mêmes à leurs problématiques ou si nous devons les rediriger vers une aide extérieure. Plusieurs outils sont ensuite susceptibles d'être mis en place. Pour les conflits inter-individuels, nous pouvons proposer des médiations, une aide à la création de groupes de soutien ou encore des accompagnements dans des travaux et d'écriture. Pour les conflits au sein d'un groupe, nous pouvons proposer des formations, organiser des temps d'échange autour des tensions, venir analyser les dynamiques collectives, etc. Au début de chaque suivi, nous nous accordons avec nos interlocuteurs interlocutrices sur des objectifs précis sur la durée de l'accompagnement et enfin sur notre rémunération. En parallèle, des outils comme l'intervision, l'échange de savoir et d'expérience avec des organisations extérieures et l'échange en interne permettent d'analyser le déroulement et le bilan de chaque suivi. Travailler sur des conflits nécessite avant toute chose d'établir des limites collectives et individuelles claires. Nous intervenons auprès d'un public vulnérable, nous n'avons pas de formation en psychologie et nous ne pouvons adopter une posture de soignante à l'égard des personnes qui nous contactent. Si certaines de nos membres ont une formation en droit, nous ne sommes pas non plus en mesure de proposer des conseils juridiques. Nous accompagnons les personnes qui nous contactent sur un pied d'égalité en leur donnant tout le respect et le temps nécessaire après avoir évalué ensemble leurs besoins et nos capacités. Ce sont des auteurs et des autrices de violences, des victimes d'abus, des protagonistes de conflits ou des membres de leur entourage. Aujourd'hui, nous avons suivi plus d'une centaine de personnes et de collectifs. Les situations rencontrées relèvent de conflits interpersonnels, de processus de harcèlement collectif, de dénonciation, d'abus ou d'agression. Si à l'origine, le milieu que nous visions était la sphère militante, plutôt féministe et queer, nous touchons aujourd'hui à des espaces beaucoup plus vastes. Nous travaillons avec des écoles, des lieux culturels, des médias, des associations politiques. Proposer une critique des mécanismes punitifs et délétères à l'œuvre dans les milieux militants, c'est mettre sur la table nos dysfonctionnements collectifs et nous donner une chance de faire mieux, de reconstruire de nouveaux fondements. Je chéris plus que tout ces espaces, les luttes féministes et les communautés queer auxquelles j'appartiens. C'est depuis cette position de militante que j'écris. En tant que Gwyn, mes communautés m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. C'est dans ce milieu que j'ai vu les plus belles initiatives en matière de justice sociale et de soulèvement collectif. Ces espaces sont des laboratoires particulièrement riches en matière d'inventivité pour de nouveaux communs. Les relations qui s'y nouent et les projets qui s'y construisent sont de véritables modèles de résistance au capitalisme. Et c'est justement parce que nous sommes capables du meilleur qu'il faut interroger ce que nous faisons de pire. Je me suis beaucoup interrogé avant de me lancer dans l'écriture de ce livre. Il fait face à un obstacle majeur, celui d'être récupéré par des personnes ou groupes sociaux cherchant à justifier des comportements violents ou oppressifs. À l'heure où la force réactionnaire semble de plus en plus puissante et vont jusqu'à utiliser nos dissensions contre nous-mêmes, produire une critique publique de nos contradictions internes peut apparaître comme une trahison. Ouvrir la question de ces défaillances revient pourtant à ne pas les laisser dicter nos combats et agendas politiques. Nos milieux reproduisent des mécanismes punitifs qui nous marquent, nous traumatisent et nous affaiblissent durablement. Nous avons intériorisé un système de pensée qui justifie les souffrances que nous nous infligeons. J'ai donc dû faire la paix avec l'idée d'une récupération politique, car il est plus important que tout de visibiliser nos dysfonctionnements internes pour nous y confronter afin de les dépasser.